8 septembre 1942. Mon cher papa, il y a très longtemps que je n'étais pas écrit parce que j'attendais la permission d'écrire des lettres. Tu vas pouvoir m'envoyer une réponse dans l'autre enveloppe. Je voudrais, si tu peux, que tu m'envoies ma photo, celle de maman et la tienne. Il y a très longtemps que je ne t'ai pas vue. J'espère que je te reverrai bientôt. Je perds toutes mes forces. J'ai beaucoup maigri. Je suis encore malade. J'ai attrapé une autre maladie, la varicelle. Il y a des gens qui disent qu'on va libérer les enfants qui ont moins de 10 ans. J'espère que j'aurai la réponse le plus tôt possible. Sois en bonne santé. Surtout ne tombe pas malade comme moi je fais. Ne t'ennuie pas comme moi, car je pleure souvent en pensant à toi. Ta petite fille qui t'aime et qui t'embrasse bien fort, Marie.
Vendredi 30 mars 2012, vous écoutez la web radio de l'Académie d'Orléans-Tours. L'émission que nous allons vous proposer est enregistrée du CERCIL d'Orléans. Elle a été préparée par la classe de 4e B du Collège Édouard Vaillant de Vierzon. 2012-1942, 70 ans se sont écoulés. Mais le temps n'a pas effacé des mémoires les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. L'année 42 a été particulièrement marquée par la rafle du Vélodrome d'hiver. Les 16 et 17 juillet, plus de 13 000 personnes ont été arrêtées par la police française collaborationniste au seul motif qu'elles étaient juives. Madame Moucharzeï, bonjour. Vous êtes la présidente du CERCIL. Merci tout d'abord de nous accueillir dans vos murs.
Bonjour et nous sommes très heureux de vous y accueillir.
Le CERCIL a été créé il y a 20 ans, en 1991. Pourriez-vous expliquer aux auditeurs ce que les lettres CERCIL signifient ?
Alors le CERCIL, c'est le centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, auquel nous ajoutons et sur la déportation juive, puisque notre champ d'études couvre tout ce champ historique. Alors pourquoi la création du CERCIL ? Je rappelle en 1991, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, à cette époque-là, si on se remet dans le contexte de l'époque, on parlait très peu de ces trois camps qui ont ouvert pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le Loiret, Pithiviers-Bonnard-Hollande, où plus de 16 000 juifs ont été internés, la quasi-totalité déportés, et parmi ces plus de 16 000 juifs, plus de 4 000 enfants, dont certains étaient des bébés, et le camp de Jargeau, où des tziganes ont été internés également, un internement très dur, très violent, avec une mortalité très forte, sans déportation, puisqu'il n'y a pas eu de déportation du camp de Jargeau. Donc, nous avons voulu, en 91, on en parlait très peu, que ce soit dans la mémoire nationale ou que ce soit dans la mémoire locale, ici même à Orléans, ou pourtant qui est à 40 km à peine de ces lieux, on s'en souvenait pas. Donc, on s'est dit à quelques-uns, il faut absolument rappeler la mémoire de ce qui s'est passé dans ces camps, parce que ces camps, les camps de Pithiviers-Bonnard-Hollande, ont joué un rôle essentiel dans le processus de déportation des Juifs de France. On va le voir. Il faut rappeler qu'il y a 8 convois qui sont partis directement de ces petites communes, des gares de ces petites communes, vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Donc, il faut en rappeler la mémoire, d'une part, rappeler la mémoire des victimes, des milliers de victimes, et en particulier de ces milliers d'enfants assassinés à Auschwitz et pour qui ces camps ont été la dernière étape. Et il faut aussi rappeler absolument et inlassablement comment de tels événements ont été possibles, comment on en est arrivé là, parce que ces événements ne sont pas tombés du ciel, ils sont le résultat de tout un processus très long et qui est arrivé à une sorte de paroxysme. Vous savez, Serge Klarsfeld dit que cet été 42, ce qui s'est passé dans ces deux camps, c'est le paroxysme de ce que les nazis appelaient la solution finale en France. Donc, voilà. Et puis, on s'est dit aussi qu'il fallait absolument recueillir les témoignages des personnes qui ont été victimes et qui ont été dans ces camps. Donc, on s'est attelé à ces tâches-là, c'est-à-dire l'approfondissement de la recherche historique dans les archives, diverses archives départementales, nationales, parfois aux États-Unis, parfois à Yad Vashem, à Jérusalem, recueillir des témoignages et mettre tout le résultat de cette recherche, de ce recueil de témoignages à disposition, bien évidemment, des enseignants pour le travail indispensable de mémoire qui est à faire avec les jeunes.
Quelles sont les principales missions du CERCIL ? Pourquoi a-t-il été créé ?
Il a été créé pour rappeler donc à la fois ces événements et cette mémoire. Alors bien évidemment, au fur et à mesure de ce travail de recherche historique qu'on a mené dans les archives, parce que en 1990, la recherche n'était pas du tout développée, il y avait beaucoup de choses encore à connaître. Et donc, on a été amené du coup à développer une activité d'édition, puisque on a trouvé des documents absolument exceptionnels, des témoignages de première main qu'on a édités. On a été amené aussi à développer, pour que ces événements soient connus du plus grand nombre, des événements culturels. Et donc le dernier acte de cette action du CERCIL, ça a été la création de ce lieu où vous êtes aujourd'hui, qui existe donc depuis un an, mais qui a été rendu possible par ce travail de 20 ans.
Le 27 janvier 2011, en présence de Mme Simone Veil et de M. Jacques Chirac, le CERCIL a inauguré ses nouveaux locaux et le musée mémorial des enfants du Veldiv. Pourriez-vous préciser pour nos auditeurs ce qu'est un musée mémorial et pourquoi cette date du 27 janvier a été choisie ?
Alors le 27 janvier, parce que c'est maintenant la journée mondiale de commémoration en mémoire des victimes de la Shoah, c'est l'anniversaire, ce terrible anniversaire est donc respecté dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est le 27 janvier 1945 que les armées russes sont arrivées dans le camp d'extermination d'Auschwitz. On parle souvent de la libération de ce camp. Libération, je ne vois pas très bien ce qu'on a libéré, puisque ceux qui étaient survivants, les nazis, les avaient emmenés dans ce qu'on appelle les marches de la mort. Et ceux qui restaient dans ce camp, c'était des malades, quasiment des mourants. Mais c'est devenu une date symbolique. C'est la raison pour laquelle on l'a choisi pour cette inauguration. Et puis, en musée, parce qu'on rappelle dans ce musée le long processus qui a amené à de tels événements, par quelles décisions ces déportations ont eu lieu. Et encore une fois, c'est pas les hasards de l'histoire, c'est pas une fatalité, ça a été le résultat de décisions. Et puis mémorial, parce qu'on veut rappeler la mémoire un par un, une par une, de toutes les victimes qui ont perdu la vie dans ces terribles événements. Et donc c'est la raison de notre salle qu'on appelle le Mémorial des enfants du Veldiv, où chacun des 4700 enfants déportés a sa photo quand on l'a, ou au moins son nom et la date de son arrestation.
Comme je l'évoquais à l'instant, 1942 a été une année particulièrement noire de la collaboration, notamment lors de la RAF du Veldiv. Madame Moucharzai, que s'est-il passé ces deux jours de juillet ?
Le 16 et 17 juillet 1942, les policiers français frappent à la porte de milliers d'appartements parisiens. Je rappelle que c'était des familles souvent très très pauvres, des tout petits artisans. Ils trouvent dans ces appartements essentiellement des femmes et des enfants. Pourquoi ? Parce que les hommes, les pères, les oncles, les frères avaient déjà été arrêtés, étaient déjà déportés, mais les familles ne le savaient pas. Quelques hommes aussi s'étaient cachés parce que personne ne pensait qu'on arrêterait des femmes et des enfants. Et donc, les policiers trouvent beaucoup de femmes et d'enfants. 4015 enfants sont arrêtés ce jour-là et sont parqués au Veldiv, qui était un vélodrome d'hiver, un établissement sportif, dans des conditions effroyables, puisque rien n'a été prévu, évidemment. Il n'y a pas de nourriture, il fait très chaud. Donc, les gens ont très soif, il y a une verrière, il fait très chaud ce jour-là. Enfin, les témoins nous racontent ça. Donc, quelques jours terribles au terme desquels ces familles vont être transférées dans les camps d'internement du Loiret, compte tenu du fait que les célibataires et les couples sans enfants ont été immédiatement transférés à Drancy et immédiatement déportés. Et va commencer cet internement donc dans les camps du Loiret.
Madame, pouvez-vous présenter en quelques mots aux auditeurs les actions prévues pour les 70 ans de la commémoration de la rafle du Vélodrome d'hiver ?
Cette année 42, en effet, on a prévu un certain nombre de manifestations. D'abord, bien évidemment, développer les visites ici, que ce soit des visites guidées, des visites thématiques dans ce lieu même, sur le lieu du camp d'internement de Pithiviers, où on présente les traces de ce que fut le camp d'internement. On a prévu des expositions, et en particulier une exposition qui va montrer ce qu'on appelle les dernières lettres, c'est-à-dire des lettres que, la veille de la déportation, les internés ont pu envoyer à leur famille. On en a très peu, mais ce sont des lettres bouleversantes parce qu'ils partent vers l'Est, ils ne savent pas où, et ce qui va les attendre, c'est la mort. Cette exposition sera accompagnée de photos d'Emmanuel Berry, une exposition aussi sur les Tziganes, puisque vous savez qu'il y a eu le camp de Jargeau, donc il faut aussi rappeler la mémoire. Nous allons faire venir comme on le fait toute l'année, mais de façon plus intensive, des historiens, Annette Wiewer-Pain en particulier, qui est bien connue, ou bien Tal Brutmack, pour rappeler toujours ce processus historique. Des témoins, bien évidemment, Sarah Montard, par exemple, qui a vécu cette rafle du Veldiv, ou Rachel Gédinat, qui est ici et qui l'a également vécu. Et puis, des projections. Et puis, évidemment, il va y avoir plusieurs commémorations.
Madame Moucharzé, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous. Nous accueillons Merci. Maintenant Madame Lécureux, IAIPR, d'Histoire-Géographie.
Bonjour.
Bonjour Madame. Vous pouvez nous préciser tout d'abord quelles sont vos missions en qualité d'inspectrice d'Histoire et Géographie ?
Alors, un inspecteur a grosso modo quatre missions fondamentales. Une mission d'évaluation des compétences des professeurs, mais aussi du travail des élèves. Une mission de formation des futurs enseignants et de formation continue des enseignants. Et une mission d'animation et d'expertise. Et je pense que c'est à ce titre que vous m'avez invité aujourd'hui.
Dans quelle classe et dans quel chapitre est enseignée la rafle du Vélodrome d'hiver ?
La rafle du Vélodrome d'hiver n'est pas enseignée en tant que telle, ce n'est pas un objet d'enseignement précisé, mais en revanche, on enseigne les deux guerres mondiales dans les programmes de collège et de lycée, et en particulier la Seconde Guerre mondiale, qui est présentée comme une guerre d'anéantissement, c'est-à-dire une guerre qui a des enjeux idéologiques forts. On trouve cet enseignement en classe de 3e au collège et en classe de 1e en lycée général et dans les séries technologiques, où parfois il peut prendre la forme d'un sujet d'étude, notamment autour d'Auschwitz.
Est-ce que ce fait historique a été enseigné au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou bien est-ce plus récent ?
Alors c'est bien évidemment plus récent. On ne peut pas enseigner l'histoire sans l'avoir faite. Or en 1945, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas faite. Il faut donc un travail de recherche de la part d'un certain nombre d'historiens pour pouvoir enseigner la Seconde Guerre mondiale. Le travail de l'historien, c'est rassembler des sources, les croiser, les confronter, tout cela dans un but essentiel qui est la recherche de la vérité. C'est donc à partir des années 60, 1959, que cet enseignement trouve sa place en lycée, en terminale, et au tournant des années 70, que l'on enseigne la Seconde Guerre mondiale au collège, en classe de 3e.
Depuis qu'il est inscrit dans les programmes scolaires, cet enseignement a-t-il évolué ? Pouvez-vous en préciser les raisons ?
Bien évidemment, il y a eu des évolutions majeures de cet enseignement, tout simplement parce qu'on a une meilleure connaissance de la période et que le regard porté sur celle-ci a évolué. Dans l'immédiate après-guerre, on peut dire qu'il y avait un besoin de reconstruction, de refondation de la République et donc d'une recherche d'unité nationale avec ce qu'on a pu appeler le résistentialisme, c'est-à-dire l'illusion que tout le monde avait résisté, peu ou prou, face à l'Allemagne nazie. Or, on sait bien que ce n'est pas la vérité, les travaux ultérieurs l'ont montré. Donc, moi je dirais qu'on a eu plus ou moins 3 temps dans l'évolution de cet enseignement. Un premier tournant qui se situe autour des années 70, avec un ouvrage majeur d'un historien des États-Unis, Robert Paxton, qui s'appelle « La France de Vichy », et qui a permis de montrer la responsabilité de l'État français face à la collaboration, et également le statut des Juifs qui donne lieu ensuite aux internements puis aux déportations des Juifs. Également un film majeur, le film de Marcel Ophuls qui s'intitule « Le chagrin et la pitié », également 1970. Et puis, je dirais aussi une certaine libération de la parole des témoins au tournant des années 60 qui sont enfin entendus et même écoutés un petit peu, peu à peu. Le deuxième tournant, ce sont les procès d'un certain nombre de criminels contre l'humanité, Barbie, Touvier, Papon, Aloïs Brunner. Ce sont sans doute des noms qui vous disent quelque chose puisque vous avez travaillé cette année sur le sujet. Et puis un discours fondateur au niveau politique, celui de Jacques Chirac en 1995, qui reconnaît officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation d'environ 75 000 juifs français. Le troisième tournant, je dirais que c'est un tournant très actuel, c'est le travail de nouveaux chercheurs. Madame Moucharzet a évoqué Tal Brutmack en particulier, c'est un de nos chercheurs qui est vraiment passionné par cette histoire et qui nous permet d'avancer sur la question. Le travail est facilité actuellement par l'ouverture d'archives nouvelles, puisque en France il faut 50 ans avant qu'on puisse consulter un certain nombre d'archives, ceci pour protéger, je dirais, l'intérêt des familles. Et puis il y a également eu des archives ouverte à l'Est après la chute de l'URSS. Donc ça constitue également un élément très important.
Madame Lécureux, le CERCIL est le centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret. Pourriez-vous préciser aux auditeurs les différences entre camp d'internement, camp de concentration et camp d'extermination ?
Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'on n'a que des degrés, mais le but, il est idéologique et identique. Il s'agit avant tout d'exclure, et après avoir exclu, exterminer. Donc le camp d'internement, c'est le lieu d'enfermement d'un certain nombre de personnes qu'on souhaite exclure de la société, et pour lesquelles on attend une solution éventuelle qui n'est pas forcément fixée d'avance. Le camp de concentration, je dirais qu'il est davantage une mesure permanente d'exclusion d'un certain nombre d'individus pour des raisons le plus souvent idéologiques, mais pas seulement. Et il est rarement, très rarement, prévu de faire ressortir les personnes enfermées dans les camps de concentration, qui sont des lieux d'exploitation de la force de travail en particulier. Quant au camp d'extermination, c'est un lieu tout simplement de mise à mort, et je dirais que le vocabulaire actuel évolue, et on parle davantage de centre d'extermination, parce que l'idée de camp, c'est l'idée de vivre. Or, dans un centre d'extermination, on meurt.
Pour finir, Madame Licureux, qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui aux jeunes, aux futurs citoyens qui vous écoutent en ce lieu de mémoire ?
Alors déjà, je voudrais rappeler, vous le savez, que 2012 est une véritable saison mémorielle par rapport à la rafle du Vel'd'Hiv de 1942, et que on a employé un certain nombre de termes différents pour désigner cette offense majeure qui a été faite à une partie de la population française, à savoir le terme de génocide, qui est un terme, je dirais, officiel, fondé après la Deuxième Guerre mondiale lors des travaux du tribunal de Nuremberg, et qui signifie, racine grecque, hein, le meurtre de tout un peuple. Et puis il y a deux autres mots que vous avez sans doute entendus très fréquemment, le terme de holocauste, qui est un mot qui veut dire sacrifice par le feu d'un animal après son immolation, qui a été employé par les Grecs, également par les Juifs eux-mêmes, mais c'est un terme surtout qui a été popularisé par une série TV des années 70 qui s'appelait Holocauste. C'est un terme qui est très employé aux États-Unis, mais qui paraît véritablement réducteur en France, où il est moins utilisé. On trouve davantage le terme de Shoah. Le terme de Shoah est un mot hébreu qui signifie catastrophe, qui signifie donc la spécificité du génocide juif par rapport à d'autres génocides. Et lui aussi a été popularisé par un film, celui de Claude Lanzmann, qui s'appelle Shoah, 1985. Et c'est aussi le mot qui est retenu pour le mémorial de la Shoah. Donc un terme important dans l'histoire française. Alors, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que cette mémoire, c'est avant tout une histoire. On enseigne des faits, des événements indiscutables. Ça, c'est un premier point. Et puis également, parce qu'on est à l'école de la République, on enseigne en fonction de la loi. Or, il y a un certain nombre de lois mémorielles en France qui font qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à propos de ces événements particulièrement difficiles. Ce qui veut dire qu'il y a des prises de position politiques par rapport à ça, et notamment par rapport à cette année, cette saison mémorielle de 2012. Je vous rappellerai que Jean-Paul Bodin, le secrétaire général pour l'administration au ministère de la Défense et aux anciens combattants, rappelle l'idéologie criminelle nazie en employant un certain nombre de mots très forts, brutalité, peur, mépris, refus de la dignité humaine, inégalité des races. Ce sont des mots qui nous incitent à être vigilants, et je crois que c'est le message principal que je peux vous transmettre. Vigilance pour que l'humanité triomphe de la barbarie. Humanité, humanisme, c'est le but du cours d'histoire et de géographie. Donc savoir ce qui s'est passé pour ne pas le reproduire, pour garder son libre arbitre, pour ne pas se laisser endoctriner, ne pas se laisser embrigader, mais être conduit à agir contre l'indignité, pour la dignité, dans le respect de chacun, afin que l'école réussisse sa mission principale, qui est de former des êtres humains, des citoyens actifs, des êtres pensants. Et je crois que c'est vraiment l'objectif de cette saison mémorielle et le message que je voulais vous transmettre.
Merci Madame. Je passe maintenant la parole à Maxime, qui va vous proposer de jeter un regard croisé avec Madame Moucharzé sur le thème du devoir de mémoire.